bonjour à toutes et à tous. Avant le début de ce nouvel épisode, un petit message car nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques lors de l'enregistrement de ce podcast avec Laure Hélène. Donc je tenais déjà à m'excuser pour les petits changements, vous verrez, de rythme parfois. J'ai essayé de faire au mieux sur le montage pour avoir une écoute fluide. Je vous remercie par avance de votre compréhension et je vous souhaite une bonne écoute. Et nous voici sur un nouvel épisode de La Quête, les épisodes de l'été. Donc maintenant, vous en avez l'habitude. J'ai un invité pour vous. Aujourd'hui, Laure-Hélène Gros qui est parmi nous. Je suis très, très, très content de partager cet épisode avec vous et avec elle. Elle va se présenter, comment on s'est rencontrés, etc. Moi, avant que je lui laisse la parole, j'ai découvert Laure-Hélène lors d'un pro-am que j'ai fait en 2019. Et ça a été une révélation pour moi en tant que golfeur amateur. Et donc, en fait, c'était ça que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. C'était faire et jouer des pro-ams. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en tant que golfeur? Et c'est pour ça que j'ai invité aujourd'hui Laure-Hélène qui va nous partager son expérience parce qu'elle est une habituée des pro-ams, mais pas que, évidemment, c'est une pro de golf. Et donc, bonjour Laure-Hélène.
Bonjour Guillaume et bonjour à tous les auditeurs.
Bon, rapidement, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, comment tu es arrivé au golf, ce que tu fais maintenant aujourd'hui, etc.
Eh bien, moi, je me suis mise au golf au début des années 2000. C'est mon grand-père maternel qui a mis un peu toute la famille au golf. Ça faisait une dizaine d'années qu'il jouait, lui, et il a réussi à nous embarquer dans la grande aventure du golf. J'ai joué à un niveau tout à fait respectable puisque j'avais atteint le top 15 français en tant qu'amateur.
Ok, super.
Voilà. J'ai tenté les cartes pour le circuit européen en 2012. Ça l'a pas fait, mais ça a été une très belle expérience personnelle. Parce que je me suis retrouvé un peu lâché au fin fond de l'Espagne. C'était à la Murcia, à la Manga, pardon, pour ceux qui connaissent. Voilà. Et du coup, j'ai décidé de passer mon diplôme pour devenir enseignante. Je suis rentré en formation en septembre 2012. J'ai été diplômé en mai 2014. J'ai fait tout mon apprentissage. Alors, l'école, j'ai fait la formation à Vichy. Qui a fermé quelques années après. Et pendant ce temps-là, je faisais mon stage dans un golf à Dunkerque. Donc, en tant que natif de Lyon, je me suis presque expatrié pour aller faire mon stage. J'y suis resté un bon moment puisque j'en suis reparti en janvier 2017 pour revenir sur Lyon, au golf de Mionnet, golf dans lequel j'avais été membre et joueuse pendant plusieurs années avant de partir dans le Nord. Voilà. Et j'ai quitté mon poste à Mionnet en décembre 2020. Donc depuis, je suis en freelance.
Ok, est-ce que
Voilà.
tu peux rapidement nous en dire plus sur ton passage des cartes là, qu'est-ce qui s'est passé, comment tu t'es rendu compte peut-être que toi, tu étais plus faite pour l'enseignement que pour devenir pro? Qu'est-ce qui t'a décidé, etc.
Alors, en fait, le projet d'y aller, il vient presque pas de moi. C'est un jour un mec que je croisais régulièrement qui m'a dit que pour lui, j'avais le potentiel d'y aller. Et il a réussi à me trouver. Alors lui, il était ostéopathe, hein, donc pas vraiment dans le monde du golf, mais il travaillait dans un golf. Et il m'a dit que pour lui, j'avais le potentiel de faire quelque chose. Donc il m'a même trouvé un petit sponsor pour m'aider à financer l'inscription et l'épreuve. Voilà, donc je me suis quand même je me suis entraînée. Et puis la veille de partir, il m'a dit tu vas partir toute seule parce qu'à un moment il faut que je laisse l'oiseau s'envoler, donc je vais te lâcher la main. Donc je me suis retrouvée à partir toute seule là-bas. Donc c'est pour ça que ça a été aussi une grosse aventure perso parce que j'avais pas l'habitude de partir toute seule loin comme ça dans un endroit que je connaissais pas, dans un pays qui n'était pas le mien. Et je me suis quand même plutôt bien débrouillé parce que le cut était au bout de de 4 tours, et en fait, au bout de 3 tours, je suis dedans.
Ok.
Et le dernier jour, je commence mal ma partie. Au bout de 4-5 trous, j'aurais déjà à plus 6 ou plus 7. Et je dois finir la partie à plus 7. Donc, je me suis vraiment accroché toute la suite du parcours. J'ai tout donné. Je rate je sais plus, un ou trois coups. Mais je me dis que j'ai tout donné, donc pas de regret. Et en fait, tout simplement, quand j'ai fait le débrief avec mon coach à l'époque, il m'a vite fait remarquer que j'étais allé là-bas pour voir et pas pour faire. Et ça a fait toute la différence. Donc il m'a dit, mon débrief s'est presque arrêté très vite. Et il m'a dit, voilà, t'as vu. Donc c'est tout. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin dans l'analyse de ce qui a pu se passer sur place. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était pas mon... En fait, c'est pas mon délire. Je suis pas une férue d'entraînement, et tu m'as mise à l'amende dans un de tes podcasts que je m'écoutais récemment, en disant qu'avant une partie, je m'entraînais très peu. Et c'est vrai que j'estime avoir eu la chance de bien jouer au golf sans faire grand-chose.
Ouais, mais ça marche très bien aussi.
Et non, mais
Toi,
c'est
tu es
pour
une
ça
erreur
que
d'exception. Toi, tu t'entraînes très peu,
c'est...
tu t'échauffes très peu exactement, c'est plus le propos. Mais par contre, tu es hyper efficace et je peux en témoigner puisqu'on a fait quand même 8 jours de programme, non, 6 jours de programme, non, 8 jours de programme
Ouais,
ensemble.
ouais.
Et quand même, à chaque fois, tu sortais des cartes qui étaient quand même super bonnes en
Ouais.
passant, et je te taquine souvent. Et puis moi, j'aime bien aussi prendre le contre-exemple, hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de beaucoup s'échauffer, mais aussi il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup s'échauffer, et je pense que tu fais partie de ces gens-là, en fait. C'est ça qui est super intéressant.
Et c'est pour ça que je dis que, enfin, j'estime que c'est une chance. Et une fois, je me suis fait engueuler en formation parce que les gens pensaient que comme ça avait fonctionné comme ça pour moi, c'était le message que je faisais passer à mes jeunes ou aux gens que je croisais, et pas du tout. C'est pour ça que je vais le redire, j'ai eu la chance de bien jouer au golf sans faire grand-chose. Donc je ne le revendique pas, je le conseille pas aux gens, parce qu'effectivement, comme tu le dis, toi, à travers la manière dont tu fonctionnes, toi, tu fais partie de ces gens qui ont besoin de faire les choses. Moi, voilà. Quand j'ai des jeunes ou quoi que ce soit, enfin, c'est tout à fait normal qu'il y ait une construction à mettre en place. Après, je ne dis pas que je ne me suis jamais entraîné. J'ai fait des choses, je suis passé par le cursus de l'école de golf pour commencer, puisque du coup, j'avais 12 ans à peu près quand j'ai commencé le golf. Il y a quand même eu une phase où je me suis entraîné, parce qu'à un moment, pour descendre, pour le coup, à un index négatif, ça ne vient pas en claquant des doigts.
Non,
Simplement, je
clairement.
consacrais moins de temps que ce que je pouvais voir quand j'allais en Grand Prix ou ce genre de choses, où après une partie, les autres filles, elles retournaient s'entraîner, il y avait une espèce de décrassage technique ou quoi que ce soit, alors que moi, à la limite, je les regardais faire. Mais
Et
c'est pas le message que
qu'est-ce
je
que
fais
tu as
passer.
appris finalement dans ces cartes et que tu transmets maintenant à tes élèves? Bon, veuillez nous excuser, on a eu un petit problème technique, mais nous revoici avec Laure-Hélène. Et donc, nous parlions de ce qu'elle avait pu apprendre sur le tour et comment elle le transmettait à ses élèves maintenant dans la vie de prof de golf. Donc, est-ce que tu peux donc continuer de nous partager un peu cette expérience? Est-ce que tu avais vraiment appris, ressorti et comment tu le transmettais maintenant à tes élèves?
Je pense que dans les choses que j'ai apprises, enfin, qui m'ont été confirmées par ce qui m'est arrivé après, je pense que le projet de devenir, enfin, l'envie de devenir joueur pro, c'est un vrai projet. C'est pas un truc un peu sur un coup de tête, tiens, je joue bien au golf, pourquoi pas. Je pense qu'il faut que les gens aient conscience de tout ce que ça représente. Tous les choix de vie que ça représente. Il n'y a pas longtemps, dans le podcast que tu as fait avec Erwan, tu parlais d'un moment, tu lui as posé la question, savoir est-ce que la différence de conduite à tenir entre quelqu'un qui est 15 et qui veut devenir single handicap et un mec qui est 4 et qui veut devenir pro. Je suis assez d'accord avec la réponse qu'il t'a faite. Pour moi, pro, c'est vraiment un autre monde. Et pour le coup, j'ai la chance de le côtoyer un tout petit peu ce monde-là, parce que bah, mon frère est joueur professionnel, donc je sais à quoi cette vie ressemble, et je me rends bien compte que c'était pas celle que je voulais. C'est pas mon délire. Mais je pense que voilà, si un jour pour le coup c'est moi qui avais un joueur de bon niveau qui vient me voir en me disant bah moi je voudrais passer joueur professionnel, je pense qu'il faut qu'il ait bien conscience de tous les choix de vie que ça représente. C'est pas juste ah bah c'est sympa la vie de golfeur professionnel, on voyage, on joue au golf toute la journée. Non, c'est que c'est un métier en fait. Et j'entends souvent mon frère dire quand les gens lui font la remarque, ah bah c'est sympa, tu vas au golf, et sa réponse que je trouve très juste, c'est bah en fait je vais au boulot. Alors c'est pas un bureau comme c'est le cas pour beaucoup de personnes, mais ça n'empêche que lui, sur le principe, quand il va au golf, il y va pour s'entraîner, et donc il y va pour travailler, c'est son gagne-pain. Donc c'est pas comme des joueurs lambda qui vont aux practices entre midi et deux, ou quand la journée est terminée, ou samedi et dimanche quand ils ont fini leur journée de travail. C'est que lui, c'est sa vie. Donc s'il va pas au golf, c'est comme enfin c'est sur principe c'est une journée de repos, même si ça c'est pas dans sa philosophie. Mais voilà, donc je pense qu'il pour moi, ce qui ressort un peu de tout ça, c'est ce côté savoir vraiment ce qu'on veut faire. Et de la même manière, pour un élève d'un niveau plus classique, enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir un élève qui arrive en cours et que j'avais jamais eu. Et je lui dis, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez travailler? Et il me répond, bah, je ne sais pas, c'est vous la pro. Et j'avoue que enfin, ça n'a pas duré très longtemps, mais je me suis retrouvé un peu con parce que je me dis, la personne, elle a fait la démarche de prendre un cours. Donc normalement, quand je prends un cours, c'est que j'estime qu'il y a quelque chose à travailler, qu'il y a moyen de faire quelque chose de mieux. Mais si je ne sais pas de quoi il est capable ou ce qu'il fait ou quoi que ce soit, j'ai aucune chance de mettre le doigt sur un axe de travail. Donc je pense que voilà, ce serait bien que les gens sachent un petit peu où est-ce qu'ils veulent aller. C'est pas pour autant qu'ils ont envie de devenir des champions. J'aurais bien parlé prépa mentale parce que j'ai écouté ton podcast là-dessus aussi.
On pourra en reparler une autre fois sans
Il
problème.
y aurait aussi des choses à dire de ce côté-là, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est les gens qui râlent ou qui se plaignent un petit peu parce qu'ils jouent mal et ils font rien. Et prendre des cours. C'est pas, enfin, je prends pas des cours pour devenir champion. Je prends des cours parce que j'aimerais que ça se passe mieux sur le parcours, parce que j'aimerais qu'il y ait pouvoir prendre un petit peu plus de plaisir. Et alors, il y a des gens qui vont dire, moi, mon objectif sur un parcours, c'est de sortir, c'est de passer un moment avec mes potes. Mais à ce moment-là, ils devraient pas se plaindre de leur niveau de jeu. Parce que si je me plains de mon niveau de jeu, a priori, il faut que je fasse quelque chose pour que ça aille mieux.
Ouais, donc ça c'est hyper intéressant finalement, c'est aussi de mettre en face d'objectifs aussi des moyens et te dire, bon, ben, moi je suis débutant, j'ai envie d'arriver à jouer 18 trous, ou comme on le disait, je suis 30, j'ai envie de passer 15, 15 singles, mais en fait c'est aussi le travail que tu vas mettre en face. Toi tu t'es rendu compte aussi de la barrière, et c'est assez amusant parce que du coup moi lundi j'avais mon cours avec Erwan. Et c'est aussi le but de mon podcast. Et là, je vais aussi. En fait, c'est assez marrant parce que entre le moment où là, je vais poster celui-là, je vais faire un autre épisode que j'inviterai du coup les auditeurs à reprendre s'ils n'ont pas écouté, parce que clairement, ce sera un bilan des 6 premiers mois. Et je me rends compte qu'au début, l'objectif pour moi, c'était de devenir single handicap. Et je m'étais dit, je vais essayer de devenir single handicap en jouant 2 fois 1 heure et demie, donc c'est en faisant 2 entraînements et on va dire 2 fois par mois. Et en fait, je me rends compte, en monitorant là depuis 6 mois mon travail, entre guillemets, que clairement, je pense que ce n'est pas possible. Je pense que si tu fais 1 heure et demie, 2 fois par semaine, plus 2 parcours par mois, tu peux être entre 12 et 15. Oui. Mais en dessous, non. Je crois pas, et ça me fait un peu mal de le dire, mais en fait, je l'ai réalisé parce qu'en fait, y a beaucoup de travail. Et en fait, ça va un peu rejoindre ce que tu disais et la vision que tu as bah, grâce à la proximité de ton frère qui est professionnel. C'est que le golf, c'est dur. Et ça rejoint aussi un peu une réflexion qu'on avait avec un pote à moi. On échange beaucoup parce que lui, il est australien. Et en fait, il disait, le golf, c'est dur. En fait, le golf, c'est dur, oui et non. Le golf, c'est dur si tu travailles pas. Le golf, c'est pas dur si tu joues régulièrement et si tu te mets tes objectifs et que tu te tiens tes objectifs. Et après, en fait, tu as le score que tu mérites. Et moi, j'aimerais enchaîner un peu sur le thème de notre podcast, tu vois, aujourd'hui. Et c'est aussi comme ça que nous, on s'est rencontrés et que ça a fait quand même un gros déclic entre le cours qu'on a au practice et comment tu le mets en place sur le parcours, c'est le pro-am et comment en fait de jouer un parcours avec un pro, c'est comme si tu étais débutant en fait parce que tu vas pour tenter des coups et puis moi je me souviens le premier parcours, tu me disais mais qu'est-ce que tu fais Guillaume là? Pourquoi tu prends ton fer 5 alors que tu es à 180 mètres et dans le rough, tu vas où? Tu vas où là? Il y a un bunker devant toi à 100 mètres, tu vas dans ton bunker. Et tu vois, en fait, c'est tout ça que j'aimerais que un peu, tu nous expliques la vision que toi, tu as quand tu vois des amateurs jouer sur les parcours et en plus sur des programmes et comment en fait tu arrives à donner et à dispenser des petits cours qui en fait nous font gagner entre 3 et 5 coups. Et encore, je suis sympa quand je dis 5 coups parce que ça peut être plus.
Alors je vais faire un tout petit retour sur ce que tu as dit juste avant avec les histoires de deux séances par semaine plus deux parcours par mois. Je pense que si les deux séances d'1h30 sont bien construites, pour moi, à la limite, c'est juste qu'il faudrait des parcours en plus. Quitte à ce que ce soit des parcours à thème en lien avec ce que tu mets en place pendant tes cours ou ce que tu travailles à l'entraînement. Mais je pense que justement, et c'est là du coup je vais faire le parallèle avec les programmes ou les parcours accompagnés de manière beaucoup plus simple, c'est que moi je pense que, et c'est valable pour quasiment tous les niveaux, il y a beaucoup de points à gagner sur le parcours. Parce que les gens jouent malheureusement, je dirais presque, trop souvent sur le même parcours, avec les mêmes personnes, les mêmes départs. Enfin voilà, comme si c'était. Tout cadré, il y a un copain de mon père qui est un exemple, mais hallucinant de ce côté-là. Et pour moi, il y a beaucoup de choses à faire sur le parcours. Il y a effectivement, comme tu le dis, des points à gratter parce que, alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a souvent les gens espèrent faire des choses qu'ils ne sont pas capables de faire, ne serait-ce que dans le score. En début de saison, j'ai fait un programme avec un couple notamment. Et après le parcours, en fait, la dame, j'ai essayé de remettre un peu comment on dit, l'église au centre du village. Et je lui ai expliqué qu'étant donné son niveau de jeu et donc les coups reçus auxquels elle avait droit, parce que ça fonctionne quand même un peu comme ça, le golf, en fonction du niveau de jeu qu'on a, on a droit à des coups supplémentaires sur le parcours. Et ben, j'ai pris la carte du parcours qu'elle joue habituellement et je lui ai expliqué comment est-ce que ça fonctionne. Et je lui ai dit, tu vois, regarde, au 1, tu as le droit de faire plus 2. Au 2, tu as le droit de faire plus 2. Donc, si tu fais mieux, c'est bien. C'est-à-dire que le 1 sur ce parcours, c'est un par 4. Je ne sais plus quel handicap il a sur ce parcours, mais en tout cas, le fait est qu'elle a 2 coups reçus. Je lui dis donc, si tu fais 6, c'est bien. Si tu fais 5, c'est très bien. Et si tu fais 4, c'est fou. Alors que les gens, ils vont dire, bah, c'est un par 4, je suis censé faire 4. Non. Donc, déjà, de temps en temps, rien que ça, et il n'y a pas longtemps, j'ai fait un programme pour le coup. Avec un monsieur qui est 12 d'index, mais comme il jouait des jaunes et probablement en plus en formule pro, il avait que 8 coups reçus, il y a plein de trous. Je lui ai dit, ouais, mais n'oublie pas que sur ce trou-là, tu as le droit de faire bogey. Il fait partie des trous les plus difficiles du parcours. Donc autorise-toi à le faire et même de temps en temps, en fonction de la configuration des trous, de le construire. Il y a plein de parcours sur lesquels, notamment, il peut y avoir même des jaunes. Et ça, pour le coup, les couleurs de départ, j'y reviendrai un tout petit peu après. Mais de dire, bah, c'est un parquet qui fait plus de 400 mètres. Mais pour beaucoup de gens, un parquet qui fait plus de 400 mètres, c'est un par 5. Et il y a de grandes chances pour que si ce trou fait plus de 400 mètres, ils aient au moins, enfin, au moins un coup reçu, voire deux, en fonction du niveau. Donc ça veut dire qu'on les autorise à faire un bogey, voire un double bogey. Donc, de pas à tout prix s'acharner à vouloir faire un par, c'est pas ce qu'on leur demande de faire. Donc, pour moi, déjà, il y a ce côté-là de dire j'ai peut-être déjà réussi à faire le par sur ce trou, mais c'était très très bien parce que c'est pas ce qu'on me demande de faire.
Ouais, regardez ces coups rendus, finalement, c'est ce que peut-être peu de golfeurs font. Et
Oui.
déjà, même, moi j'aime beaucoup, je regarde un YouTuber, Golf Sidekick, qui est anglais, et lui il est encore plus radical que toi. Il dit rajouter sur tous les par 3, par 4, par 5, un ou deux coups en fonction de votre niveau, et ça, c'est votre nouveau par. Parce qu'on oublie souvent qu'en fait, le par du parcours, c'est pas notre par, en fait, parce que le par du parcours, c'est pour les pros. C'est si on fait le par de partout, on joue scratch. Donc en fait,
Exactement.
on se fourvoie totalement.
Exactement. Ça, on est, et voilà. Et c'est pour ça que je dis de temps en temps, il faudrait juste que les gens se rendent compte de ça. Et peut-être que, tu vois, la dame avec qui j'en parlais, ça pouvait être, tu vois, peut-être qu'il y a des par 3 qui ne sont pas très longs. Donc, normalement, tu as droit à deux coups reçus. Mais que tu arrives à mettre la balle sur le green du premier coup, donc tu as une chance de faire le par. Et du coup, ça me fait penser à autre chose, c'est de se dire que s'il y a un par 3 sur lequel j'ai un, voire deux coups reçus, ça veut dire que si j'ai deux coups reçus, enfin, je suis au moins 18 de handicap. Donc, si j'ai droit à au moins un coup reçu, ça veut dire que finalement, mon objectif, c'est presque d'essayer d'avoir la balle sur le green au deuxième coup pour me laisser une chance derrière de faire deux passes. Et de faire mon bogey. Et de temps en temps, et là, du coup, je vais revenir à ton histoire de faire 5 à 180 mètres dans le rough, de pas forcément essayer de faire des choses trop compliquées, parce que c'est pas ce qu'on me demande de faire, en dehors de dire c'est pas mon niveau, ce qui revient quand même un petit peu au même, mais de dire c'est pas ce que je suis censé faire. Donc à ce moment-là, de se dire si ça me paraît compliqué de jouer le club qu'il faudrait, et ben je joue peut-être un petit peu plus court, je vais poser ma balle devant le green. Mais l'avantage, c'est que devant le green, bah, il n'y a pas de danger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bunker. Et à ce moment-là, je me laisse un coup, entre guillemets, facile pour faire mon approche, mettre la balle sur le green et prendre deux putts. C'est peut-être vachement moins risqué et j'ai peut-être encore une chance de faire trois parce que je ne suis pas à l'abri de faire approche putt. Pour moi, la stratégie sur le parcours, pour le coup, je pourrais en parler pendant des heures. Et si je fais le lien avec l'image que tu as donnée tout à l'heure, là aussi, où les parcours accompagnés et éventuellement dans le cadre des programmes ont leur intérêt, c'est de pousser la stratégie et d'essayer de savoir un peu ce que les gens ont dans la tête, que ce soit sur un coup standard parce qu'ils sont au milieu du fairway ou parce que ils sont dans le rough, comment dire, ils ont un coup, ils sont un peu dans les arbres ou dans les trucs et d'essayer de les aider à faire le meilleur choix possible en fonction de la situation, des informations qu'on aura pu prendre dans la situation d'une part et de leur capacité.
Donc c'est aussi ça, c'est finalement quand toi tu fais des programmes et des parcours accompagnés, toi tu t'aides aussi le joueur en disant mais fais le meilleur coup possible et surtout le coup que tu sais faire. Et on se rend souvent pas compte de ça en fait, hein, parce qu'on est dans la lune sur ça, nous, moi je trouve. Hein. En tout cas le joueur amateur, souvent, enfin hein, jusqu'à un certain niveau. Après, tu te rends compte que c'est ça la différence entre un joueur, et moi je le vois maintenant quand j'ai décidé de faire attention à mon score. Quand je joue avec des potes qui sont un peu plus d'index, les gars, ils sont dans les arbres. Au lieu de faire un coup de recentrage, ils sortent un fer 5 ou ils partent à l'hybride dans les bois. Moi, je suis là en mode, mais mec, en fait, ça sert à rien. Tu vas perdre au moins deux ou trois coups encore parce que tu vas jamais retraverser et tout ça. Alors après, si ton but, c'est juste d'essayer, tu as envie de te faire plaisir et tout ça, ok. Mais après, râle pas parce que tu as marqué un 8 sur ta carte et que tu es énervé au trou d'après, quoi. Finalement, c'est
Alors,
ça.
là où je suis complètement d'accord avec la dernière partie, c'est de se dire si à un moment je décide de prendre un risque, parce que quand on est un peu dans les arbres ou quoi que ce soit, il y a souvent une solution très facile, même si ça veut dire de repartir un petit peu en arrière parce que c'est un peu plus large, parce qu'il n'y a pas trop de branches ou quoi que ce soit. Donc souvent, il y a une solution simple. Et après, il peut y avoir plusieurs petites options risquées, très risquées. Et là où du coup je reviens sur ce que tu as dit, c'est qu'à partir du moment où je décide de prendre l'option risquée, je dois assumer. Je n'ai pas le droit de râler. C'est-à-dire que j'ai décidé de le faire parce que parce que ça peut peut-être me permettre de gagner un point, ou parce que je suis en partie amicale et donc j'ai envie de le tenter, puisque c'est le moment ou jamais de le faire. Autant si je suis en compétition, c'est peut-être bien de la jouer un petit peu plus safe. Mais si je suis voilà, mais de se dire que si je décide de prendre l'option la plus risquée, je vais faire en sorte d'avoir pris toutes les informations nécessaires au choix du club adapté pour prendre ce risque. Mais si ma balle tape un arbre ou qu'elle sort pas de la forêt, j'assume. Effectivement, comme tu dis, j'ai pas le droit de râler parce que j'ai pris un risque, je l'ai pris et j'ai fait ce choix tout seul. Et moi, du coup, alors plutôt pendant les parcours accompagnés, parce que le score, pour le coup, on s'en fiche, les gens, je vais, pour le coup, en cours, je vais les amener à essayer de faire le coup compliqué pour qu'ils l'aient essayé au moins une fois et qu'on ait discuté et qu'ils voient un petit peu le raisonnement qui peut amener à faire ce genre de choix. Et je leur montre, je leur dis ça, je sais que tu sais faire, de faire ton petit coup pouce-pouce pour la remettre au milieu, en arrière ou à 90 degrés. Mais tiens, et si aujourd'hui, là, maintenant, avec moi, on essaye de passer un petit peu sous les branches pour essayer de gagner les 30-40 mètres qui font que de là, tu as une chance d'aller chercher le green. Mais c'est de prendre les infos, déjà, sur la manière dont la balle repose au sol, sur l'éventuelle contrainte de hauteur, de distance ou quoi que ce soit. Et voilà. Mais si je fais un choix, si je fais le choix, pardon, de l'option risquée, j'assume. Je serais très contente si ça fonctionne, mais je n'ai pas le droit de râler. Si, je peux peut-être réagir un peu parce que je suis déçu ou quoi que ce soit, mais j'ai fait mon choix, j'assume.
Comment tu manages, c'est intéressant, en proie, bon, en parcours accompagné, un amateur qui va vouloir absolument faire en disant ou en pensant qu'il est capable de faire ce coup-là et qu'il rate, et quel conseil tu peux lui apporter du coup dans l'immédiat?
Non, alors pour le coup, je vais le faire sur le moment. C'est-à-dire que s'il veut tenter l'option compliquée, je vais m'assurer qu'il s'installe correctement et si je puis dire, qu'il mette toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir. Donc, comme tu dis, la position de la balle, éventuellement le choix du club, la position de la balle, la taille du mouvement, ce genre de choses pour être sûr qu'il est, et encore plus si c'est un joueur. Moyen, on va dire, un bogey player ou plus, pour qu'il ait toutes les chances de son côté. Parce qu'autant un joueur, je veux dire, un chiffre, voire proche de zéro, a priori, il a quelques clés, mais de temps en temps, un petit rappel, ça fait pas mal. Donc je vais l'aider pour qu'il ait les meilleures cartes en main pour réussir à faire ce coup-là.
Et quelle est l'erreur la plus courante? Là, tu disais le choix du club, la position technique. Est-ce que toi, tu as remarqué, entre guillemets, un défaut, si on peut dire ça, des joueurs? Est-ce que souvent le joueur va pas prendre le bon club, il va pas avoir l'exécution, ou alors il va avoir le bon coup d'essai, mais pas le bon coup quelle est l'erreur la plus fréquente? Ou alors c'est des erreurs techniques, les gens pensent qu'ils vont être capables de faire ce coup-là alors qu'ils ne sont pas du tout capables. Est-ce qu'il y a une vraie typologie qui s'installe quand tu les vois jouer, les joueurs, ou pas du tout?
Alors, je pense que le plus souvent, le point de départ, c'est-à-dire avant qu'on commence à en discuter, ce serait une erreur de choix de club.
Ok.
Alors, souvent, avec un club, parce que les gens ont tendance à prendre un club trop ouvert, c'est assez rare que les gens décident de prendre un club trop fermé, pour le coup. Mais souvent, ça partirait de. Si je les laisse faire, ils auraient souvent un club trop ouvert. Et après, bien souvent, c'est plus effectivement un problème d'exécution technique, on va dire. Mais ouais, le choix du club est important. Mais comme sur plein d'autres coups sur le parcours, finalement, là, on est resté centré sur le coup un peu dans les bois, façon coup de recentrage. Mais je pense qu'il y a plein de moments, et l'exemple que tu donnais au départ du coup dans le rough. Je sais qu'il y a, j'ai plein de parcours accompagnés pendant lesquels j'incite les gens à faire des choses beaucoup plus simples dans le rough parce que le ROF est haut, dense, et vu le club qu'ils ont décidé de prendre, ils n'ont pas la capacité, dans le sens où ils n'ont pas la vitesse suffisante pour que le club puisse traverser assez franchement l'herbe et faire un coup cohérent. Donc parfois, il faut que les gens apprennent à faire beaucoup plus simplement un coup de faire 7, de faire 8, voire de faire 9, pour essayer même presque plus de remettre la balle en jeu, en essayant de la faire avancer un petit peu, plutôt que de décider de prendre un coup de fer 6, un coup de fer 5, ou même un coup de bois dans le rough. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un coup pour le coup, il vaut mieux un coup d'hybride qu'un coup de bois dans le rough, si jamais j'avais un conseil un peu générique à poser. Mais de temps en temps, voilà, si l'herbe est un peu enfoncée, même si j'ai du chemin à faire, et bien je prends un club un peu ouvert, comme ça ma balle va jaillir plus facilement hors de l'herbe. Et après, je m'occuperai de faire la distance qui me reste jusqu'au green. Mais parfois, il vaut mieux un bon coup de fer 8 qu'un mauvais coup de fer 5, quoi.
Ouais, donc toi déjà par exemple, un conseil où t'as un peu loupé ta mise en jeu, t'es dans un rough un peu dense, bon, il te reste encore peut-être 150 mètres ou même 130 mètres au green. Finalement, tu prends un coup de fer 8, tu te recentres, quitte à finalement te mettre à peut-être moins de 100 mètres, en tout cas peut-être pour le joueur qui est moins de. Moins 18, enfin, qui est plus de 18, quoi, qui est 18 et plus, il perdra moins de points que de tenter son fer, comme tu dis, son fer 7 ou son fer 6 depuis le rough, de finir dans le bac, voire dans les chaussettes 2 mètres devant et de perdre déjà encore un coup, plus l'énervement derrière, quoi.
C'est ça, donc c'est de se dire, il vaut mieux que je me remette en jeu, entre guillemets.
Ouais.
Et puis parce qu'en plus, de temps en temps, quand j'ai un trou en tête là où je travaillais avant, si tu es dans le rough, que tu t'obstines à viser le drapeau, de ta balle jusqu'au drapeau, tu n'as que du rough.
Ah oui.
Tu vois? Alors même s'il n'est pas forcément, il n'est pas toujours très méchant, mais tu n'as que du rough, c'est-à-dire que tu as 5 mètres de fairway avant d'arriver sur le green. Donc de temps en temps, il vaut peut-être mieux un bon coup de fer neuf, voire un coup de pitch, parce que j'aurais tendance à dire, plus le rough est dense et la balle un peu enfoncée, plus il faudra un club ouvert.
Ok.
Parce que justement, ce que je disais tout à l'heure, pour être sûr de mettre la balle en l'air. Mais du coup, il vaut mieux se dire, je prends un club ouvert et je cherche à me remettre sur le fairway, plutôt que de se dire, j'ai 150 mètres à faire, c'est un coup de... Parce que pour la plupart des gens, c'est quand même vite, un coup de faire 6, voire faire 5 et plus. Et comme tu dis, de prendre le risque de faire 2 mètres ou de la mettre n'importe où, parce qu'en plus, je me suis dit, pour être sûr de la sortir du rough, il va falloir que je la secoue un peu. Ben non, je prends mon fer 9, je la remets au milieu. J'ai fait un bout de chemin, donc s'il me restait 150 mètres, avec un peu de chance, comme tu dis, il me restera, je sais pas, 80 ou 70 mètres. Et voilà. Et puis j'ai peut-être plus de chances de faire bogey comme ça qu'en essayant à tout prix de faire un tas et en faisant un choix pas judicieux.
Ouais. Et du coup, comment toi t'interviens quand tu fais des parcours accompagnés? Tu vas essayer de travailler plus un compartiment du jeu, c'est-à-dire, je sais pas, les fers, les approches, le putting, la mise en jeu, ou quand tu fais un parcours accompagné avec tes élèves ou un pro-am, tu donnes un seul conseil, je sais pas, par trou, ou tu vas focaliser en disant, ah bah tiens, c'est vrai que j'ai remarqué que. Bon, ben les faire, c'est à peu près bien, mais par contre, la mise en jeu, c'est pas du tout ça. Est-ce que toi, tu priorises des choses en fonction des parcours ou comment tu fonctionnes, comment fonctionnent un peu tes échanges et tes conseils finalement?
Alors, sur un parcours accompagné, c'est dans le quoi qu'il se passe dans le jeu, dans sa globalité. Par contre, pour le coup, je fais très peu de technique et je préviens les gens que je fais très peu de technique sur un parcours accompagné parce que c'est pas le moment. Parce que déjà, il peut y avoir du monde derrière, donc il faut quand même qu'on avance. Et qu'en plus, à chaque coup, enfin, ils vont changer de club, donc ça va être compliqué de mettre un truc en place. Par contre, quoi qu'il se passe à la fin du parcours, il y aura des échanges sur la technique. Je dis pas si la personne est vraiment en vrac, bien sûr que je vais l'aider. Je vais pas la laisser galérer pendant tout le parcours sous prétexte que je dis que je n'ai pas de technique. Les seuls compartiments sur lesquels je peux éventuellement faire un peu de technique parce que c'est plus facile, c'est sur le petit jeu. Le petit jeu et le putting. Parce que là, c'est plus facile, quand il fait ses coups d'essai, c'est plus facile d'ajuster une petite correction. Mais sinon, je ne fais pas de technique. Donc pour le coup, je vais essayer de l'observer et de lui amener des informations plus justement sur la stratégie, sur le choix de club. Parce que comme je disais au début, pour moi, c'est là que les gens ont quelque chose à gagner. Et comme tu dis, 3 à 5 coups faciles pour la plupart des gens. C'est pas un ou deux coups, c'est que de temps en temps, en faisant des meilleurs choix. Mais les choix viennent des prises d'informations. Les gens, trop facilement, ils arrivent à leur balle, et comme je disais au début, encore plus parce qu'ils jouent toujours le même parcours. Le mec, il arrive à sa balle, il sait ce qu'il va prendre. C'est-à-dire que, je dis pas, il a pris aucune information. Il a peut-être vu qu'il avait passé la plaque des 135. Il a vu que le drapeau, il était à peu près par là. Et encore, c'est facile parce que comme il a joué la veille, finalement, il sait où est le drapeau sur le grill. Et du coup, il va dire, bah, hier, j'étais à peu près par là, je vais prendre ça. Non, c'est pas ça le golf. Enfin, tout le monde sait que le, enfin, les deux parcours, ne, enfin, je peux jouer deux parcours de suite, deux jours de suite, mais les parcours ne se ressemblent pas. Donc, faut éviter de rentrer dans la comparaison. Donc, ça veut dire que normalement, à chaque fois que j'arrive à ma balle, je prends mes informations. C'est-à-dire que je vais prendre le minimum pour moi, c'est la surface sur laquelle se repose ma balle.
Oui, le lie, quoi.
Ouais, le lie, voilà. Donc, alors parce que pour le coup, si je foutais un peu, je dirais est-ce qu'elle est bien placée, est-ce qu'elle est mal placée. Mais déjà de se dire, voilà, comment est-ce qu'elle pose par terre, la distance, et j'allais dire, oui, il peut y avoir le vent et le dénivelé, mais en fonction de comment ça souffle, on peut en tenir plus ou moins quand on se met.
Les obstacles aussi, non? Les obstacles que t'as plus loin ou tu quand même tu regardes.
Oui, si on rentre dans la stratégie, après je vais me dire, ok, bah là il y a un bunker devant, donc peut-être que si je vise un petit peu plus le côté droit du green, bah, le bunker il n'est pas en jeu. Comme tu dis, même sur une mise en jeu, j'ai peut-être pas forcément besoin de taper le drive parce que ça met un bunker en jeu. Et c'est là que de temps en temps, pour le coup, ça peut être, enfin, c'est intéressant. Si j'ai pas la possibilité de jouer sur d'autres parcours que le mien, parce qu'il y a des gens à qui...
Parler de la prise d'information sur la distance, etc. Sur comment repose la balle, la distance. On parlait aussi de la météo et des obstacles. Toi, tu vas apporter tout ça finalement au joueur quand tu es avec lui sur le parcours, quoi.
Je vais m'assurer qu'il a bien pris toutes les informations dont il a besoin pour faire son choix. C'est pour ça que je disais, les gens, de temps en temps, alors ce qui fait encore plus rire, c'est quand la personne elle est à 15 mètres de sa balle et elle a déjà son club dans les mains. Ça me fait sourire, quoi. Mais tu sais même pas comment elle est, tu sais pas. Enfin, voilà, et ça prouve encore plus cette histoire de jeux trop fréquents au même endroit. Et je pense qu'un bon exercice que les gens font trop peu, et parfois surtout les mecs à cause d'histoire d'ego surdimensionné, j'y mets changer de couleur de départ. Il y a des gens pour qui, des hommes en l'occurrence, enfin, à la limite, c'est une honte de jouer des bleus et encore plus des rouges, c'est inimaginable. Mais. Bah, peut-être que justement de dire, bah, j'ai pas la possibilité d'aller jouer ailleurs parce que j'ai pas le temps, parce que c'est compliqué ou parce qu'il n'y a pas une offre énorme de parcours autour de là où je suis, ça peut arriver aussi. Bah, à ce moment-là, je me dis, bah, tiens, aujourd'hui, on va partir des bleus. Donc on est au même endroit, on est sur le même parcours, mais on va jouer des bleus. Alors il y a certains départs entre les jaunes et les bleus, il y a 10 mètres. Mais de temps en temps, il y a 50 mètres. Et peut-être que des jaunes, il y avait de l'eau à passer, des bleus, il n'y en a plus. Donc je vais me retrouver à faire des choix différents ça va me bousculer un tout petit peu, mais justement, il va falloir que j'arrive à ma balle en prenant les informations, parce que c'est, j'ai pas le même coup à jouer que celui que je fais d'habitude, parce que je suis parti 50 mètres devant, donc je peux pas avoir la même distance que celle que j'ai d'habitude.
Ouais, c'est
Et
hyper intéressant parce qu'aussi, c'est pas en avançant, en avançant, en fait, peut-être que le joueur va avoir d'autres coups, mais en fait aussi, il va être obligé d'être capable de peut-être de tenir un score. Si c'est même un bon joueur, est-ce qu'il est vraiment capable de vraiment scorer, par exemple, et comme tu dis, de partir des rouges ou des bleus, et est-ce qu'il est capable, par exemple, de jouer en tout cas la moitié de son index? Parce que je pense que si les joueurs le faisaient plus souvent, ils se rendraient compte que il scorerait, à mon avis, pas beaucoup mieux que d'habitude, hein, parce que c'est notre gestion du stress, hein.
c'est ça. Alors, il y en a
Donc c'est
certains
vrai que
qui.
ça, c'est intéressant, hein.
On se fait parfois chambrer, nous, enfin, je veux dire, les femmes, si jamais on joue bien, oui, mais vous jouez un pitch and putt. Tu vois, soi-disant parce qu'on part un peu plus près qu'eux. Bon, après, s'il y a ces histoires de différence de couleur, c'est qu'il y a une différence avérée
Oui, bah,
de
de distance
puissance.
au drive, tout
Voilà.
ça, oui.
Donc il faut quand même garder ça dans leur contexte. Mais à ce moment-là, moi, il y en a plein. J'ai envie de leur dire, ben, il y a un outil très pratique sur le site de la fédération qui s'appelle, c'est une calculette. Et en fait, il suffit de rentrer, si on est un homme ou une femme, son index, le parcours sur lequel on joue, et il va donner les coups reçus en fonction de la couleur de départ.
Intéressant.
L'autre jour, je crois, mon père, très drôle, sur le parcours sur lequel on a fait un programme ensemble. Alors, mon père, il est 19 et demi, je crois. Et ben, si je jouais des oranges, donc qui sont les départs les plus avancés qui existent sur le parcours, et ben, il les jouait moins 1.
C'est marrant, ouais. C'est vrai que
Et
ça
du
peut
coup,
être
de se
hyper
dire,
intéressant, quoi, ça, comme
et voilà,
concept, hein.
et comme tu le dis là, de se dire, ben, peut-être que tiens, aujourd'hui, je vais faire un parcours à thème, je vais partir des bleus. Eh ben, je vais aller regarder sur le site de la Fédé avec ce petit outil. Ok, en partant des bleus sur le parcours, combien de coups reçus est-ce que j'ai? Et puis, de temps en temps, de se dire, en fonction de mon niveau de jeu ou de mon truc, ben, je vais jouer des rouges et je vais faire. Il y a un petit jeu qui peut être sympa, c'est la course au par. C'est-à-dire que je ne joue que pour faire des pars. Je m'en fiche de faire bogey, double truc. Tout ce qui compte, c'est faire un par. Donc, à partir du moment où sur un par 4, j'ai pas mis mon quatrième coup dans le trou, je ramasse la balle. Et de se dire que comme je le fais d'un départ plus près, j'ai déjà peut-être plus de chances d'y arriver. Si je le fais de ma distance à moi, je suis censé, enfin, je suis pas 18 d'index. Alors quand on est 18 d'index, il est vrai qu'on arrive à faire quelque part, mais à ce moment-là, je vais peut-être changer un petit peu mon jeu et je vais jouer de manière plus agressive. Parce qu'il faut que je cherche à tout prix à faire un par. Et puis de temps en temps, à l'inverse, bah, je suis peut-être 20 d'index. Alors en fonction des parcours, les index pour partir, soit des bleus pour les dames, soit des blanches pour les hommes, peuvent varier un tout petit peu. Mais de dire, ok, bah, je suis 20 d'index, bah, aujourd'hui je vais aller jouer des blanches, mettons, et je sais que mon par, c'est un coup de plus sur tous les trous. Voilà. Parce que si je fais bogey sur tous les trous, j'ai joué 18 et des blanches en étant 20 d'index, c'est assez dingue.
Complètement.
Et à l'inverse, je peux me
Ça, c'est
dire, bah, je
d'accord.
vais jouer des rouges et bah, je vais jouer un parcours plus court, donc je vais me permettre d'être plus agressive et je vais chercher à faire des parts. Et c'est ce qu'ils essayent de faire un petit peu avec le système pour les jeunes avec US Kids, c'est qu'ils ont des parcours, des distances de parcours adaptées en fonction de la catégorie d'âge. Plus je grandis, plus je pars de loin. Mais les jeunes se retrouvent, même les petits, jouent à des distances sur lesquelles ils peuvent performer. Par contre, on est d'accord qu'ils ont, j'allais dire, les coups reçus adaptés à la couleur depuis laquelle ils jouent.
Et puis aussi, on parle aussi un peu de quelque chose que toi, tu apprécies particulièrement. C'est aussi l'aspect mental. Et honnêtement, on le découvre, on en parle de plus en plus. Et là, il y a une vidéo qui tourne sur Instagram et que d'ailleurs, que je reposterai sur le compte Play Better, Be Smarter, que je vous invite toujours à suivre, de Bernard Langer, en fait, qui explique ça, quoi. C'est que si on met dans une salle d'un simulateur, deux joueurs qui ont exactement le même niveau technique, bah, ça va être dans la tête que ça va se jouer, quoi. Qu'après, il y a un moment, il y en a un qui va prendre le dessus sur l'autre. Et aussi de jouer, bah, justement, des rouges, ça va être aussi cette capacité à tenir finalement le score. Et ça, c'est hyper intéressant, quoi, de voir qu'on s'enflamme. Donc, du coup, après, quand on sera de nos tis habituels, si on est en train de bien jouer, bah, finalement, comme on l'aura déjà fait, il y aura moins aussi ce stress de dire, oh là là, mais là, je suis en train de jouer mon index, ou je suis en train de jouer moins 3 de mon index. Non, en fait, on aura déjà eu cette sensation, et donc c'est aussi ça, c'est la reproduction de la sensation qui fait qu'à un moment donné, on est capable de mieux jouer.
Oui, et puis il y a un peu un côté se mettre en situation de réussite. Parce qu'il y a des gens, ça c'est le genre de. Enfin, pour moi, c'est le genre de discours qui me gonfle de voir des mecs râler, mais dire non, non, moi je suis un homme, je joue des jaunes ou je joue des blanches, espèce de problème d'ego surdimensionné. Et dire ouais, mais tu es en train de galérer des jaunes quand la Fédé a créé les départs, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais a priori, quand la Fédé a créé les départs violets et orange, l'idée était que les gens choisissent, on va dire, leur couleur de départ en fonction de leur distance de mise en jeu. Et si je me souviens bien, pour partir des jaunes, il fallait faire 180-200 mètres, ce qui veut dire qu'il fallait faire plus de 200 mètres pour partir.
Audrey.
Pour partir des blanches.
Ouais.
Alors oui, dans la tête de beaucoup, ils les font, mais sur le papier, ils ne les font pas.
Oui.
Sauf que comme ils estiment les faire, ben, ils disent, non, non, mais moi, je pars des jaunes, je pars des jaunes. Mais moi, je me souviens très bien, à l'époque où je travaillais dans le Nord, j'avais un monsieur, j'avais organisé un petit challenge hivernal sur un neuf trous, et il m'a dit, ben, moi, je voudrais bien pouvoir partir des rouges, même si je perds un ou deux coups. Parce que le parcours est bien plus à ma portée. Et ce mec-là, il avait tout à fait raison. Parce qu'il y en a un sous prétexte que, et ça, c'est encore plus frustrant pour moi, mes potes, ils jouent des jaunes, je ne vais pas jouer des bleus. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si tu estimes qu'il est mieux pour toi par ton index, par ton âge, par ta distance, ton drive, que tu partes des bleus, voire des rouges, ben, fais-le, on s'en fiche de tes potes. Moi, j'en ai un avec qui j'ai fait un programme il n'y a pas longtemps. Pour lui, jouer des bleus, c'est pas du golf. Et on a fait un programme. Sauf que ce monsieur, il a 85 ans. D'accord? Il est dans une très bonne forme, il n'y a aucun souci. Sauf que la règle à ce programme, c'était que ce qui est le cas sur beaucoup, les hommes de plus de 70 ans partent des bleus. Il m'a dit, oh, ça me fait un choc. Et du coup, petit à petit, je lui ai assez vite sur le parcours, je lui ai expliqué, alors comme c'est un parcours sur lequel il n'avait pas beaucoup de repères, il n'a pas pu comparer son jeu des jaunes et son jeu des bleus, mais je lui ai dit à ce moment-là, comme sa femme joue des bleus, je lui ai dit, bah, à l'occasion, fais un parcours des bleus avec elle. C'est un entraînement, vois-le comme un exercice, et pas comme une tare de dire, ça veut dire que je vieillis, ça veut dire que machin. J'ai envie de dire, on s'en fiche.
Et
Donc,
comment il a joué des bleus? Est-ce qu'il a bien joué? Il a scoré?
Il a joué pas si mal. Après, comme toujours. Après, j'avais dû faire qu'un seul parcours avec lui l'année précédente, donc j'avais pas beaucoup de repères pour le coup. Mais dire à un moment donné, arrêtez de, enfin, sortez de ces histoires de l'ancien temps, de dire les hommes c'est des jaunes, les femmes c'est des rouges, les machins. C'est jouer d'un départ depuis lequel vous vous sentez à l'aise. Et mon père, alors il serait content de savoir que je parle autant de lui. Je lui dis, ben regarde, prends la distance, le métrage du parcours que tu joues habituellement, et quand tu vas jouer à l'extérieur, ben, joue depuis la couleur dont le total correspond le plus à ce que tu as l'habitude de faire. Et l'autre jour, ils sont allés jouer un parcours, ils jouent avec trois dames, et ben ils jouent des rouges, parce qu'en plus, c'est vachement plus convivial, c'est plus pratique, ça va plus vite. Et il n'y a pas d'histoire d'ego, de trucs, de dire, ah ben non. Je vais jouer des bleus comme ça, je partirai plus loin. Enfin, il s'en fiche complètement et il s'est rendu compte que bah, sur certains parcours, c'est quand même vachement plus plaisant de jouer des rouges ou éventuellement des bleus que de jouer des jaunes parce que des jaunes, c'est trop long.
Et en fait, on ne se rend pas compte, mais aux US, c'est comme ça, en fait. En fonction de ta distance au départ, on t'attribue des boules et pas du tout en fonction de l'index. Donc, parfois, c'est vrai qu'en France, on aurait beaucoup à apprendre de cette pédagogie. Et moi, je suis totalement d'accord avec toi aussi, parce que y a selon moi une notion qu'on oublie beaucoup dans le golf, c'est la notion de plaisir et quel plaisir on va avoir à jouer des beaux parcours et justement perdre tout le temps des balles à chaque trou. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit la vision du golf et il me semble que la notion de plaisir est sûrement la plus importante. Donc, finalement, c'est aussi partir des tees desquels on pourra se faire plaisir et du coup aussi scorer. Et puis après, ben, on reculera au fur et à mesure et il n'y aura pas de problème. Et du coup, derrière, le jeu n'en sera que grandi. Et puis aussi, comme tu le disais, on va mo avoir moins de jeux lents. Et ça, c'est quand même, on le sait tous et ça nous énerve tous. Donc, voilà, pensons à ceux qui sont derrière, pensons à notre plaisir. Moins de jeux lents, c'est quand même hyper positif. Donc ouais, moi j'aime beaucoup. Est-ce
Il y a, il y a
que...
eu, je coupe, il y a eu un article il
Vas-y.
n'y a pas longtemps sur un média internet qui s'appelle Golf Planet. Il a fait un article justement sur ces histoires de couleurs de départ et tout ça. Et si je ne me trompe pas, c'est le golfe de Mérigny, dans le Nord, qui a fait une espèce de grille en mettant, alors pour le coup, c'est effectivement pas les distances, mais c'est les index, pour dire en fonction de l'index d'où il part. Et ils disent même que du coup, des gens qui sont 54 et qui font leur première compète, ils partent des oranges. Et le golf a fait le choix de dire, lorsque vous participerez aux compétitions, vous partirez des départs recommandés. C'est-à-dire que ce sera pas, il y a des golfs qui disent, bah, on vous laisse pas le choix et tout ça. Bah là, eux, c'est dire, si je me trompe pas, par exemple, un mec qui est 27, il part des bleus. Donc, il aura les coups reçus qui vont avec, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a beaucoup de golf qui n'osent pas le faire parce qu'ils disent que les gens vont plus participer aux compétitions ou quoi que ce soit. Mais c'est au moins, et je crois qu'il y a un des, le, c'est le golf du 24 heures, des 24 heures du Mans. Je crois aussi qu'il y a un panneau au départ sur le
Ouais,
principe qui a mis le tableau des
exactement.
recommandations, au moins des recommandations de la Fédé. Et dire, bah voilà, en fonction de l'index ou du truc, je suis censé partir de là. Et c'est dommage que les gens ne le fassent pas. Au
Je suis
moins
entièrement
pour.
d'accord.
Et pour ça, je dis au moins une fois pour essayer. Alors, il y a des golfs sur lesquels peut-être que les départs violets et orange sont peut-être pas très bien indiqués. Il y a peut-être des golfs sur lesquels il n'y a pas. Mais c'est de se dire, si vous les avez sur vos parcours, essayez. Surtout si vous êtes le genre de golfeur à faire plusieurs parcours par semaine. Mais ça vous permettra de changer plutôt que de dire, bah, je pars des jaunes. Avec Jacques et Marcel, on joue à 14h10 le lundi, le mercredi, le vendredi. Et ben peut-être que je sais pas ou à chaque fois que vous êtes à chaque début de partie, et ben vous faites une espèce, vous avez une espèce de, je sais pas, dans une casquette ou un truc, vous avez les papiers des couleurs de départ et au début de la partie, vous tirez au sort une couleur et vous faites toute la partie. Là, alors je pourrais dire de temps en temps, essayez de ne pas mettre le départ jaune, comme ça vous êtes sûr d'être obligé de changer, mais de trouver un moyen de changer un tout petit peu pour amener de la variété et pour sortir de cette espèce de train-train dans lequel la plupart des golfeurs se sont installés. Je sais que pour les dames, c'est plus compliqué parce qu'il y en a certaines qui n'auraient pas la capacité de jouer des bleus, mais il y a devant les rouges, il existe désormais deux couleurs de départ. Et les golfs pourront les renseigner. Ils ont sûrement un moyen de trouver, au pire, les distances pour pouvoir trouver les départs si jamais ils sont. Parce que souvent, c'est matérialisé par des plaques au sol ou des choses pour être sûr que ça ne gêne pas les tondeuses. Mais de dire, en connaissant la distance à laquelle se situe le départ, vous avez une chance de pouvoir le trouver sur le parcours. Mais amener de la variété sur vos parcours.
Je pense que c'est quelque chose qu'on veut retenir. Et c'est des points importants que tu as mentionnés, je pense, qui sont hyper importants et qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est tout seul. C'est bah, adapter finalement ces types de départ pour justement se challenger aussi. Ça, c'est hyper intéressant. Comme tu l'as dit, ne pas se précipiter finalement quand on arrive. sur sa balle, prendre les informations, et finalement la première des informations, c'est est-ce qu'on est capable de réaliser le coup qu'on va effectuer ou pas? Et après, toutes les informations, on va dire micro, c'est-à-dire le lie, la distance, la météo, les obstacles, et puis ensuite y aller, et derrière voir le résultat, et peut-être aussi, quand on a la chance de faire des parcours accompagnés et des proas, mais c'est peut-être un peu là la conclusion que j'ai envie de faire, moi, c'est aller faire des parcours avec vos pros, en fait, parce que ils vont identifier peut-être des points à travailler que vous n'aviez pas forcément vus, et ça va forcément vous faire gagner des points sur la carte, et aussi ça va vous faire gagner en confiance. Donc moi, je trouve que la formule pro-am slash parcours accompagné, c'est vraiment ça te fait passer dans une autre dimension, tu gagnes beaucoup en confiance, et puis tu vois vraiment ce que c'est le jeu de golf. Donc je trouve que ça, c'est vraiment une idée à pousser, et pour améliorer son jeu, c'est hyper intéressant. Donc voilà,
Oui, parce
donc
que comme tu le dis, l'avantage du, enfin, d'aller avec son pro sur le parcours, quelle que soit la formule, on pourrait presque dire, c'est de se laisser une chance de gagner des points sans remettre en question sa technique. Parce que, comme on l'a dit, enfin, de différentes manières, je pense, pendant le podcast, il y a des points à gagner un peu de partout, et de temps en temps, il y a déjà des points à gagner en faisant de meilleurs choix, en prenant un club qui est plus adapté, en faisant un coup qui est plus adapté à ce que je suis capable de faire aussi. Donc sans être obligé de dire, ouais, mais il faudrait que je monte le club un peu plus comme ça, il faut que je mette la main un peu plus là, il faut que je fasse ci, il faut que... Avant même de commencer à toucher à la technique, il y a moyen de gagner des coups. Et je pense que
je suis vraiment
les
d'accord.
gens n'en ont pas vraiment conscience, et c'est dommage que les parcours accompagnés, pour le coup, parce que on pourrait dire que le problème, c'est encore un peu autre chose, mais pour moi, les parcours accompagnés sont sous-cotés. Les gens n'ont pas suffisamment conscience de ce qu'un parcours accompagné peut leur apporter.
J'espère en tout cas que là, cet échange ensemble le débloqueront des situations. Est-ce que avant de finir, est-ce que tu peux nous donner un peu ton actu là? Je sais que tu es pas mal actif, tu fais pas mal de stages. Qu'est-ce que tu fais là? Quels sont les stages qui sont en vue? Peut-être si nos auditeurs sont intéressés. Alors déjà, si vous êtes dans la région lyonnaise, moi je vous invite à aller voir Laure Hélène, à la contacter. Je mettrai évidemment son compte Instagram dans le petit post et aussi dans les infos du podcast. Mais quel est ton actu là un peu?
Alors, moi, la semaine prochaine, je vais renouveler l'expérience d'être bénévole pour la Mundi Evian Championship.
Ah, super,
Donc,
ça, trop bien.
ça fait 3 ans que je fais scoreur là-bas.
Ok.
Donc, j'avoue que c'est un moyen aussi de voir un petit peu ce sport sous un autre aspect. Donc,
Ok.
c'est le moyen de côtoyer enfin, les meilleures joueuses de la planète, pour le coup. Et j'aime bien faire ça. J'ai un petit stage privé à l'île de Ré
L'île de Ré,
cet
ok.
été. Ouais. Pendant quelques jours avec deux couples là-bas. Voilà. Sinon, on a un stage organisé. Alors justement, c'est pour ça que quand tu parlais mental tout à l'heure, on a déjà fait l'expérience au mois de mai, et à début octobre, on organise un stage de golf avec un pote qui est coach mental. Donc on fait
Ok.
ça à Évian sur 3 jours.
Super.
Alors, coach mental, si je fais la petite parenthèse, et on verra si on a l'occasion d'en reparler. Lui, l'idée, c'est d'abord et avant tout de travailler la routine. Donc tout ce qui se passe avant le coup. Il y a des
Ok.
histoires de profil un petit peu visuel, auditif, kinesthésique, ce genre de choses. Et c'est déjà d'amener les gens à savoir dans quel profil ils sont, et du coup de les amener à faire des choses qui leur correspondent. Parce
Ok.
qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne leur collent pas. Et j'ai eu la chance du coup de pouvoir suivre ces interventions pendant notre petit stage. Et donc j'ai aussi découvert des choses pour moi que je mets en application depuis et qui fonctionnent et qui me correspondent plutôt pas mal.
Ok.
Au début, j'étais un peu sceptique, mais finalement, je, Bah, je m'y accroche parce que ça fonctionne plutôt bien. Donc
Ok,
on
donc
organise ça
en octobre.
le premier week-end d'octobre. Ça doit faire du jeudi 5 au soir au dimanche 8.
Ok, bon bah
Au golf
super, bah
des Vians.
écoute, super, en plus
Voilà.
super super cadre, donc
Ouais.
évidemment je mettrai le lien vers ton compte Instagram où il me semble que tu en parles régulièrement, et puis j'invite à ceux qui sont intéressés de prendre contact avec toi. En tout cas, c'est super, vraiment. Merci, merci beaucoup pour ce temps accordé, Laure-Hélène. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple, à suivre le compte Instagram Playbetter Bismarter. Partagez avec vous si vous avez déjà joué avec des pros en pro-am ou en parcours accompagné, qu'est-ce que ça vous a apporté. Et puis, évidemment, je pense que on se refera un petit podcast peut-être pour parler de cet aspect mental que moi j'aime en particulier et sur lequel je me suis rendu compte là, ces derniers 6 mois qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Donc ce sera avec grand plaisir pour un autre podcast. Et en tout cas, voilà, merci pour ton temps. Une petite excuse déjà auparavant parce que je pense que vous allez avoir un peu un montage sur ce podcast parce qu'on a eu quelques petits problèmes techniques. C'est un peu orageux là en Bretagne en ce moment, donc ça fait un peu de crise. Donc merci à tous, merci Laure-Hélène, je te laisse le mot de la fin.
Merci à toi, Guillaume. C'est toujours sympa de suivre ce que tu fais parce que c'est vraiment ce que tu fais toi. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a certaines personnes qui essayent de faire des choses un peu comme ça, mais je trouve qu'elles ont tendance à vouloir donner un peu, je vais pas dire donner des leçons en même temps, mais qui font des choses qui sont peut-être pas dans leur capacité. Donc, j'aime bien l'idée de vouloir juste partager son expérience et dire ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'amener les gens vers des jolies choses.
Merci beaucoup, merci à toi de ta dispo toujours et de tous ces conseils que, en tout cas, pour moi, m'ont beaucoup aidé. Et si ça peut aider d'autres, c'est super.
Avec
Merci
plaisir.
encore, bon golf et bon été à tous.